De retour à Ça vaut le détour, vous pouvez réagir aux propos de nos invités sur les médias sociaux, sur Twitter en utilisant le mot-clic CVLD ou @canal_ M. J'accueille en studio Mme Annick Larose, directrice de l'AQUIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est votre chronique annuelle. On va vous retrouver annuelle.
Mensuelle. Je vais vous voir
mais
plus
c'est la première
souvent.
De l'année.
Oui, c'est ça. Voilà.
Je n'ai pas trop loin. Mais donc, on va vous recevoir à chaque mois pour parler de différents dossiers menés par l'AQUIS. Mais tout d'abord, présentons l'AQUIS.
Oui, bien, c'est ça. Comme première chronique, c'était ça que j'avais en tête, parce que, étant donné qu'on n'est pas, pas tous qui nous connaissent. Donc, l'Association du Québec pour l'intégration sociale, on est une des vieilles associations. On a été créée en 1951. Donc, on est une fédération. On regroupe plus de 80 associations qui sont situées partout au Québec. On a un mandat de promotion d'intérêts et de défense de droits des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc, notre action est vraiment en lien avec la déficience intellectuelle. Donc, à la base, c'était des parents qui ont créé ce regroupement-là, bien, une association. Après ça, c'est devenu un regroupement. Et pour vraiment développer, on se reporte en 1951. Hein, donc, quand on avait un enfant qui avait une déficience intellectuelle, à peu près automatiquement, il était placé en institution. Mm-hmm. Donc, l'AQUIS a été très, très, très impliqué au niveau de la désinstitutionnalisation, au niveau de plein de dossiers, au niveau de la participation sociale. Donc, vraiment, notre mandat, c'est de permettre aux personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle d'être le plus possible ancrées dans la société, dans une société qu'on veut inclusive, dans toutes les sphères de leur vie, que ce soit au niveau de la petite enfance, au niveau de l'intégration à garderie, à l'école, dans le travail, dans les loisirs, les transports. Donc, on est là dans tout, vraiment, toutes les sphères de la vie, là, comme on dit toujours, du berceau au tombeau, pour s'assurer, justement, que ces personnes-là ne soient pas lésées dans leurs droits et puis qu'elles puissent se développer à leur plein potentiel.
Et justement, 65 ans d'histoire.
Oui, tout à fait.
On a pu voir plusieurs changements dans les époques, dans les décennies, sur l'intégration sociale des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Est-ce qu'on parle aussi de personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme?
Non, nous, c'est spécifiquement déficience intellectuelle, mais il faut savoir que dans le trouble du spectre de l'autisme, il y a quand même une trentaine de pourcents, 30 % qui ont une déficience intellectuelle. C'est sûr que dans nos associations, dans certaines régions, il n'y a pas nécessairement de distinction. Ils accueillent mm-hmm. également. Mais nous, on travaille en déficience intellectuelle. Il y a l'équivalent de nous, qui est la Fédération québécoise de l'autisme.
Tout à fait. Qui est donc dans le but de développer justement un réseau d'entraide, finalement, de mettre des ressources en commun pour faciliter la participation sociale des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Sur quel plan est-ce qu'on trouve vos actions? Comment est-ce que ça se manifeste?
Alors, on travaille beaucoup au niveau de la sensibilisation. Dans sa sensibilisation, je vous dirais même des décideurs, parce que pour plusieurs, on fait beaucoup de représentations politiques. Bon, je vous dirais que de ce temps-ci, c'est un peu plus compliqué parce qu'on ne veut pas nécessairement nous voir. On s'organise un peu pour ne pas nous voir. Mm-hmm. Mais je vous dirais que c'est de sensibiliser les décideurs, sensibiliser la population à la déficience intellectuelle. Donc, c'est encore pas très connu. Il y a beaucoup de hiérarchisation du handicap. Malheureusement, la déficience intellectuelle arrive souvent bon dernier dans la perception. Souvent, on s'imagine que ce sont des personnes... Il y a des préjugés, hein, beaucoup, qui entourent la déficience intellectuelle.
Lesquels? Les principaux qu'on rencontre?
Que ça reste des éternels enfants qui ne sont pas capables de prendre des décisions, qui ne sont pas capables d'apprendre, qui ne sont pas capables d'évoluer. Que la plupart ont des troubles de comportement. Oui, certains ont des troubles de comportement, mais pourquoi qu'ils ont des troubles de comportement? Parfois, c'est aussi au niveau de l'accompagnement et tout ça. Donc, beaucoup de préjugés qu'on essaye de défaire, notamment avec la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. On a également un volet de formation tant au niveau des gens qui côtoient les personnes qui ont une déficience intellectuelle, même des professionnels. Par exemple, un médecin qui rencontre une personne qui a une déficience intellectuelle, parfois, il a besoin d'être sensibilisé à la déficience mm-hmm. intellectuelle, comment qu'on approche cette personne-là. Donc, la formation également des parents pour bien qu'ils soient bien outillés, qu'ils soient formés également pour faire valoir leurs droits. Ça, c'est important. Donc, formation également au niveau, c'est quelque chose qu'on veut développer plus au niveau des personnes qui ont une déficience intellectuelle également, qu'elles prennent leur place. Il y a un volet également donc de représentation et de défense de droits. Donc, on s'assure et on est un peu les chiens de garde, je vous dirais, là, par rapport à ce qui se passe. Puis surtout en ce moment, là, avec ce qu'on vit par rapport à toute cette philosophie gouvernementale en ce moment, là, on voit des effets là, de diminution beaucoup auprès de la clientèle qui a une déficience intellectuelle, malheureusement, il y a des effets.
On parle de diminution de l'intégration sociale.
Oui, bien, diminution de services, diminution d'accompagnement, fermeture de centres de jour. Là, M. Lisée parlait par rapport à tout ce qui est hébergement. C'est très préoccupant ce qui se passe. Donc, il y a vraiment des aspects. On a perdu du terrain également au niveau de l'inclusion scolaire. Donc, beaucoup plus de difficultés d'intégrer maintenant en milieu régulier, beaucoup de recul. Encore une fois, bon, il y a les compressions. Là, malheureusement, c'est ça qui arrive hein, quand on coupe dans les budgets. Les premiers qui écopent, souvent, c'est les personnes qui sont plus vulnérables. Et là, je regardais même au niveau des CPE, on était très contents parce que ça allait quand même assez bien, l'intégration d'enfants à besoins particuliers dans les CPE. Puis là, avec ce qui se passe bientôt, les coupures qui s'annoncent, ben est-ce que c'est eux qui vont faire les frais de ça? Mm-hmm. C'est ça qui est inquiétant parce que nous, c'est vraiment, on préconise beaucoup l'inclusion dans toutes les sphères parce que justement, quand un enfant va avoir un enfant régulier, mm-hmm. va avoir eu un camarade qui a des besoins particuliers, un enfant trisomique, un enfant qui a une déficience intellectuelle, il va vivre avec cette personne-là et au niveau de la sensibilisation, c'est ce qui est le meilleur. Et éventuellement, peut-être que cet enfant-là va devenir un employeur puis qu'il pourra être ouvert à intégrer à l'intérieur de son équipe de travail une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, c'est vraiment, c'est pernicieux, ces coupures-là. Puis ça a un impact direct également sur la vie des parents qui, quand on regarde, par exemple, le peu de services qu'il y a après 21 ans, on en a parlé beaucoup là, du trou, là. Bien, il est réel, ce trou-là. Il n'y a pas beaucoup de possibles pour un jeune qui sort de l'école à 21 ans qui a une déficience intellectuelle. Les possibles ne sont pas nombreux. Et puis pour la famille, mais parfois, ça se résume à ce qu'un des deux parents reste à la maison pour pouvoir s'en occuper. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage.
Et ça limite aussi la participation sociale des personnes qui entourent les personnes avec une déficience intellectuelle.
Bien,
donc,
oui,
c'est par ricochet, il y a
d'autres gens
puis
au niveau
aussi.
Économique, c'est certain que si une personne... Donc, ça rend les familles beaucoup en situation de précarité. Donc, il faut s'y intéresser. Puis, c'est pas de perdre l'argent d'investir là-dedans. Au contraire, parce qu'une personne qui va être stimulée, qui va avoir été développée dans son plein potentiel, nous, on répète ça depuis des années, mais un jour, on va finir par rencontrer quelqu'un qui va y croire, que quand on développe justement le plein potentiel de la personne, bien, elle va beaucoup moins dépendre et va développer moins de problèmes de santé, tant au niveau de la santé physique qu'au niveau de la santé mentale, beaucoup moins de troubles de comportement. Donc, je pense que c'est de mettre les sous à la bonne place que d'investir là-dedans et de faire des coupures mur à mur et sans prendre en considération les personnes. Ça a un impact, peut-être pas sur un horizon électoral, mais sur un horizon à long terme. Alors, je pense que c'est aux décideurs, je les interpelle à faire quelque chose en ce sens-là et non pas d'avoir une philosophie de courte vue comme ils ont en ce moment.
Justement, cette réorganisation du système de santé, c'est quelque chose qui vous préoccupe énormément à la CIS.
Oui, parce que c'est une vision, je vous dirais... très médical, très autour, beaucoup, beaucoup de tout ce qui est santé. Donc, tout ce qui est services sociaux est laissé vraiment de côté. Et quand on parle de participation sociale, on est loin là, de l'aspect médical. Mm-hmm. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'avec l'organisation telle qu'elle est présentement, qu'il va avoir un réel intérêt par rapport à la déficience intellectuelle. J'ai plutôt la crainte que ça va être dilué. En tout cas, on est prêt à avoir encore de l'espérance, mais disons qu'on regarde ça de près et disons que c'est des craintes, parce qu'on en a vécu beaucoup à la CIS des réorganisations. Hein, puis,
oui, en 65 ans,
oui,
je présume
quelques-unes.
Que vous en avez vu plusieurs. Est-ce que vous croyez que justement, cette tendance-là qu'on voit peut-être dans le milieu de la santé, de réorganisation, de coupures, de négligence peut-être, de certains besoins, est-ce que ça serait dû à encore cette perception médicale des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle plutôt que d'avoir une perception de participation sociale?
Ah, c'est certain que le regard est très différent quand on regarde la personne au point de vue physiologique, puis au niveau de juste de voir, de répondre juste à son besoin de santé, puis de pas nécessairement voir, mais c'est quoi le développement qu'on peut faire. En tout cas, j'ai une petite expérience de côtoyer le monde médical avec... Parce que je suis moi-même parent d'une personne qui a une déficience intellectuelle. Donc, la perception du monde médical, notamment par rapport à la trisomie, on ne peut pas dire qu'elle est excellente. Donc, c'est quoi le plein potentiel d'une personne qui a une trisomie? Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de médecins qui sont capables d'évaluer ça. Donc, je pense qu'il faut sortir de cette vision-là très... d'hôpital, là, et puis de se dire, bien, il faut mettre des ressources ailleurs et les parents exigent, veulent avoir des ressources spécialisées, mais qui sont de qualité pour développer le plein potentiel et non pas juste pour répondre à des feux. Parce que malheureusement, on a cette mauvaise habitude-là qu'on va s'occuper d'une personne seulement lorsqu'elle va avoir développé des troubles de comportement, quand elle va avoir eu des graves problèmes, mais quand c'est pour le développement, pour s'assurer, puis pour prévenir
ces situations-là, il n'y a personne.
On ne considère pas que c'est un besoin. Alors moi, je commence à devenir un peu allergique à ce terme-là, besoin, parce que parfois, on l'évalue en fonction de ce qu'on est capable d'offrir et non pas sur le réel, le plein potentiel de la personne.
Mm-hmm. Annick Larose, merci beaucoup.
Ah, ça passe vite, hein? On en aurait des choses à dire.
Mais voilà, on va se garder du matériel pour vos prochaines chroniques.
Oui, qui vont être très orientées sur ce qu'on travaille à la CIS par rapport à nos activités avec nos membres, avec la Semaine québécoise, Forum sur l'emploi qui se prépare au printemps. Là, donc, il va y avoir des choses à dire là-dessus.
Ça bouge de ce côté-là. On va être très heureux de vous recevoir à nouveau pour une chronique mensuelle de la CIS, l'Association du Québec pour l'intégration sociale. Annick Larose, vous êtes la directrice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci. Au revoir.